Bonjour à tous ou bonsoir, c'est Donde Bamos pour mon 6e podcast. Aujourd'hui, on va parler du rôle de la police dans une démocratie défaillante comme la nôtre, puisque c'est ainsi que The Economist a qualifié notre pays. Cela, après les mesures liberticides que nous avons subies à coups de mensonges et de manipulations pendant 2 ans. Ceci dit, vous auriez raison de me dire que The Economist est très mal placé pour faire des leçons de démocratie. Alors pourquoi la police existe-t-elle? Est-elle là pour protéger la veuve et l'orphelin? Défend-elle l'État ou la population? Qu'appelle-t-on l'ordre public? Sa violence est-elle légitime? Selon certains, la police serait là pour surveiller et punir, hein, du nom de l'ouvrage de Michel Foucault paru en 1975 appelé « Surveiller et punir, naissance de la prison ». L'idée de faire ce podcast m'était venue parce qu'un jour, un ancien membre des renseignements généraux m'avait expliqué que la justice ne s'occupait que de gérer ce qui dépasse, ce qui se voit, ce qui est embêtant pour l'opinion publique. C'est-à-dire que les crimes et délits discrets ont toutes les chances de passer sous les radars et une action qui déborde beaucoup a toutes les chances d'être réprimée de manière exemplaire. La police, censée être le bras armé de la justice, n'a pas pour rôle de mettre fin à la criminalité, surtout pas la criminalité commise en haut de la pyramide sociale, sauf exception. Cette question du rôle de la police et a fortiori de la justice est une question que l'on n'est pas censé se poser en démocratie, en tout cas pas si on écoute Macron ou Darmanin, puisqu'il n'y aurait pas vraiment de violence policière, puisque cette violence serait légitime.
Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, de la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas la force, pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés. Donc par principe, l'idée même de violence policière me paraît être totalement antinomique d'utiliser ces deux mots. Voilà.
Alors, Darmanin nous a dit ça, on était à l'époque en juin-juillet 2020, et c'était une période où il y avait quand même eu quelques violences policières récemment, notamment dans les cités. Commençons par remonter un petit peu le temps, l'histoire de la police et de la gendarmerie. Alors, jusqu'à la Révolution française, la violence appartenait essentiellement au roi, qui a longtemps laissé les nobles et les bourgeois des communes l'exercer aussi. Mais sur la fin, on est arrivé sur une période absolutiste où il a essayé de concentrer les pouvoirs, notamment la violence de police, ce qui a créé pas mal de crispations dans pas mal de communes d'ailleurs. La police, elle a d'abord été municipale autour du XVIIe siècle, quand les municipalités ont pris de l'autonomie et se sont multipliées, réclamant et obtenant souvent une autonomie, voire même l'indépendance dans la gestion des affaires locales. À cette époque, on a parfois vu des expériences assez alternatives, notamment dans le midi de la France. C'est d'ailleurs quand Louis XVI a tenté de reprendre la main sur ses polices locales que la bourgeoisie s'est crispée, ce qui a largement en fait contribué à la Révolution française. Suite à laquelle la police a été étatisée progressivement et séparée de la justice. Parce que jusqu'à ce moment-là, la police était sous l'autorité de la justice. Alors du côté de la gendarmerie, il y avait deux branches. Une branche départementale qui était gérée par les départements et qui avait en charge la police judiciaire et elle était sous l'autorité de la justice. Et il y avait aussi la gendarmerie nationale qui était gérée par l'État et qui avait une mission de maintien de l'ordre public. Les gendarmes étaient à l'époque des militaires, mais dans un corps qui était bien séparé de l'armée. Dans l'article « Les pouvoirs de police attribuent du pouvoir municipal ou de l'État », l'historien Jean-Marc Berlière écrit « Alors que pendant longtemps, il avait semblé admis que le maintien de l'ordre et de la tranquillité publique était l'affaire du pouvoir local, on va voir s'opposer, au fur et à mesure du développement du pouvoir central, deux conceptions de la police. Ce que nous appellerons la tendance centralisatrice ou centripète l'emporte sous la Convention, le Consulat et les deux empires, alors que la tendance décentralisatrice ou centrifuge traditionnelle de l'ancienne France avait été confirmée par la législation de la Constituante et notamment par la loi municipale du 14 décembre 1789. À partir de la Révolution, de sa centralisation et de son étatisation, la police a été utilisée pour lutter contre les mouvements sociaux qui ont été criminalisés et accusés de violence, alors que traditionnellement, les mouvements sociaux débordent. Traditionnellement, les gens descendent avec un gourdin dans la main quand il s'agit de revendiquer, de demander du pain ou autre, quoi. Il fallait cadrer, il fallait normaliser les mouvements sociaux et les pouvoirs de la police ont sans cesse été étendus. La police a été ainsi coloniale, esclavagiste, anti-ouvrier, anti-révolutionnaire. Et en même temps, on a vu la professionnalisation de la police à partir du 19e siècle. Voici ce qu'en disait l'économiste Paul Rocher, auteur du livre « Que fait la police ?». C'était lors d'une conférence avec Frédéric Lordon le 17 novembre 2020 à l'invitation de la Fabrique des éditions.
Un des phénomènes majeurs, évidemment, du capitalisme, c'est l'industrialisation, c'est les concentrations ouvrières. Et donc, on n'a pas seulement des concentrations ouvrières dans les usines, on a des ouvriers qui s'organisent, qui revendiquent, comme la CGT, qui gagnent non seulement en nombre, mais aussi en combativité dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et ce qu'on n'a pas à cette période-là, c'est une augmentation de la délinquance. Donc ça, les historiens nous l'apprennent. Donc à nouveau, pas de lien entre la police et la criminalité. Par contre, un lien très fort entre les bouleversements socio-économiques et le besoin de réprimer précisément, en quelque sorte, les perdants systématiques du capitalisme, soit la classe ouvrière. Et donc, dès le début de la police, on a des violences policières. On a un débat sur les violences policières. Et dès le début de la police, les dirigeants de la police promettent que bientôt, il n'y aura plus de violences policières parce qu'ils vont changer la doctrine du maintien d'ordre. Alors, peut-être que voilà, ça sonne un peu comme un déjà-vu. Ben, c'est un déjà-vu depuis 150 ans. Ce n'est pas très original. Les changements de doctrine, on nous les promet assez régulièrement. Et c'est aussi dès ce début-là que vont se nouer des liens très forts entre la police, les dirigeants policiers et un certain nombre d'écrivains, de journalistes. Donc on a là aussi l'émergence d'un nouveau genre et qui a précisément pour but, et c'est clairement exprimé comme ça au sein de la police, qui a pour but de faire aimer la police. Et s'il faut faire aimer la police, c'est parce que précisément, elle n'est pas appréciée. Et elle n'est pas appréciée, non pas parce que la population ne comprend pas ce que fait la police, mais c'est parce que la population comprend justement très bien ce que fait la police, qu'elle n'est pas appréciée.
Donc voilà pour les origines de la police dans les grandes villes industrielles. La police nationale, elle, n'a été créée qu'en avril 1941, c'était par un décret de Pétain, et il n'était pas du tout question de protéger la population. Le serment des agents de la police nationale était « Je jure fidélité à la personne du chef de l'État en tout ce qu'il commande dans l'intérêt du service de l'ordre public et pour le bien de la patrie ». La police nationale a donc été le supplétif de l'occupant pour la répression et l'arrestation des résistants et les opérations de recensement, les rafles et la détention des juifs avant qu'ils soient envoyés dans les camps. Le secrétaire général de la police nationale était René Bousquet, donc ça de mai 42 à décembre 43. C'est lui qui a construit la police nationale. Ensuite, il a été remplacé par Joseph Darnan, qui était le chef de la milice pétainiste, qui lui aussi traquait particulièrement bien les résistants et les juifs. Alors Bousquet, qui travaillait en totale collaboration avec les responsables des SS et de la police allemande en France, a construit une police nationale en trois branches. La police urbaine, la police judiciaire et les renseignements généraux qu'il pilotait directement et qui étaient présents dans chaque commissariat pour la traque des terroristes, c'est-à-dire les résistants. Hein. Il traquait les dissidents, les prisonniers évadés, la main-d'œuvre immigrée et plus tard les réfractaires au service du travail obligatoire en Allemagne. Bousquet a aussi créé ce qui deviendra les CRS, appelés groupe mobile de réserve. Je vais m'arrêter quand même 2 minutes sur René Bousquet parce que c'est un personnage intéressant, mais qui est un petit peu l'arbre qui cache la forêt parmi tous ces collabos qu'on a totalement recyclés dans le système après la guerre. Donc, il a contribué à l'organisation de beaucoup de rafles, pour le coup, notamment la rafle du Veldiv. Et comme on le sait, après la guerre, il a échappé aux poursuites car il a réussi à se faire passer pour un résistant, comme tant d'autres collabos. On parle d'ailleurs des vichisto-résistants, tant ils ont été nombreux à assurer leurs arrières à partir de 1943, quand il est devenu clair pour tout le monde que le Reich n'avait pas les moyens militaires de ses ambitions sur le front russe. Le fait que Bousquet soit aussi proche d'un autre vichisto-résistant qui s'appelait François Mitterrand a certainement beaucoup aidé. Bousquet s'est lancé dans la banque, puis a échoué dans la politique, je pourrais parler longtemps de ses magouilles, mais ce n'est pas l'objet, avant de se rabattre sur la presse en gérant la Dépêche du Midi. C'est seulement au milieu des années 80 que les accusations contre lui et son rôle dans la déportation des Juifs et des résistants se sont faites plus claires et plus fortes, mais pas de chance, il a été assassiné en 1991 par une victime qui n'avait aucune confiance dans la justice. Tout comme Bousquet, on a gardé ses créations. Police nationale, renseignements généraux, CRS. On a gardé des inventions pétainistes fort utiles, comme la carte d'identité de Français, qui a été aussi imposée par l'ami Pétain. Et beaucoup de policiers, de préfets des années d'après-guerre avaient été des collaborateurs notoires, comme Papon, Marcelin. On pourra en citer pas mal d'autres. J'en ai parlé dans mon blog, dans mes articles sur les magouilles et la corruption des élites. Pourquoi un tel recyclage ? Ben, d'abord parce que la menace numéro un pour le capital à l'époque était le Parti communiste et ses revendications sociales, aussi incongrues que la hausse des salaires ou de meilleures conditions de travail. Et puis, alors qu'elle s'était un petit peu calmée depuis 1968, la police est progressivement militarisée. Avec Macron, on voit arriver des tanks pour le maintien de l'ordre, des armures de Robocop, des armes dites non létales mais qui mutilent, des meurtres pour délits de fuite qui se succèdent, des policiers autorisés à se promener toute la semaine avec leurs armes, une impunité quasi généralisée. Un article de Bastamag du 9 juin 2022 souligne que, en 2022, la police a abattu 9 personnes dans leur véhicule à la suite d'un refus d'obtempérer. Depuis la loi de 2017 qui assouplit la notion de légitime défense, leur nombre a considérablement augmenté. Cette violence a fait peur aux gens qui n'osaient plus du tout aller manifester, ce qui laissait les mains totalement libres à Macron pour agir. Parce que cette violence croissante de la police, qui a commencé dans les banlieues en fait, se ressent dans les manifestations, où des techniques illégales dites de maintien de l'ordre sont toujours utilisées très régulièrement par les forces de l'ordre. Ces réflexions nous amènent à la question « Mais quel est donc le rôle de la police ?» Allons sur le site policenationale.intérieur.gouv qui nous rappelle les principes de la Constitution de 1789, ce qui est très joli. Je reprends le texte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de Constitution française, a défini la philosophie de l'action policière. Son premier article affirme que la sûreté fait partie des droits inaliénables et imprescriptibles de l'homme, et le 12e article dit que la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Mais la réalité de la fonction policière est expliquée un petit peu plus bas, c'est-à-dire qu'on comprend que la sécurité des citoyens est une mission relativement accessoire parmi toutes les missions de la police. En effet, le site nous explique, je cite encore, « Dans cet esprit républicain, la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité de janvier 1995 a énoncé les missions prioritaires de la police nationale. 1. La sécurité et la paix publique. Ce qui veut dire veiller à l'exécution des lois, à assurer la protection des personnes et des biens, à prévenir les troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique, ainsi que la délinquance. Il y a le rôle de police judiciaire, qui a pour objet, sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, de rechercher et constater les infractions pénales, rassembler les preuves, rechercher les auteurs et complices, et les arrêter et les déférer aux autorités judiciaires compétentes. Et enfin, il y a la mission de renseignement et d'information, c'est-à-dire assurer l'information des autorités gouvernementales, déceler et prévenir toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, aux institutions, aux intérêts fondamentaux de la nation ou à la souveraineté nationale. Là, il n'est plus du tout question de droits fondamentaux et de protection des citoyens. Le problème avec tout ça, c'est que moins la population consent aux actions venues d'en haut, de l'État, plus la police est utilisée. Il ne faut donc pas qu'elle fraternise avec l'ennemi, la foule en colère, la population, dont la plupart des policiers sont pourtant issus. Dans cet extrait qui date de juillet 2022, qui a été diffusé sur Le Média, Julien Théry interviewait l'historien Éric Blanchard au sujet du rôle de la police.
Il y a quelques mois, on entendait un commandant de la CRS, un gradé d'Île-de-France, qui disait au micro de France Inter pour défendre les retraites des CRS, « Nous avons sauvé le gouvernement Macron au temps des Gilets jaunes, et ce n'était pas la première fois que nous sauvions des gouvernements récemment. Quelle ingratitude on nous fait en nous assignant au même régime de retraite que les autres ?» Ça renvoie à une problématique de long terme, que la police, c'est aussi la défense de l'État, éventuellement contre la population. En tout cas, s'il y a un trop grand décalage entre... le consentement ou l'absence de consentement d'un côté et l'action de l'État de l'autre, c'est là que la police devient un acteur majeur.
La notion de consentement est centrale. Un gouvernement qui est plus ou moins illégitime, dans le sens où il est soutenu par des fractions de moins en moins grandes du corps social, est un gouvernement qui, bien sûr, dépend de plus en plus de sa police. Dans le sens où, effectivement, l'impossibilité de faire passer un certain nombre de conceptions de ce qu'est faire société, justement, autrement que par des tensions, des oppositions fortes, fait que ces oppositions doivent être contenues par la police. Et c'est ça qui donne effectivement un statut spécifique aux policiers dans les sociétés contemporaines. C'est d'abord effectivement le droit aux armes, c'est la possibilité d'user de la force, mais c'est aussi le fait que c'est une institution qui soutient au sens quasiment architectural un gouvernement. Les gouvernements ne s'effondrent pas de même. Les gouvernements, si on prend l'exemple de la 4e République, et si on parle d'un régime et pas simplement d'un gouvernement, elle ne s'est pas effondrée toute seule, tout simplement, parce que cette constitution aurait été mal fichue, qu'il y aurait eu trop d'instabilité parlementaire.
– 1958, hein,
voilà. Cette 4e République et la transition vers la 5e République en 1958, elle est liée avant tout au fait que les deux institutions de force, la police et l'armée, ne sont plus loyales aux institutions de la 4e République, ne sont plus loyales par rapport à ces derniers gouvernements de la 4e République.
On observe que les violences policières, du moins leur signalement, se multiplient. En parallèle, on observe un appauvrissement de la population et un véritable siphonnage des richesses produites tous les ans par une petite caste qui s'en met plein les poches. Regardez si vous avez le temps le dernier rapport d'Oxfam qui est publié tous les ans au moment du forum de Davos, si vous vous demandez où passent les milliards injectés dans l'économie nationale tous les ans. La conclusion, c'est que la police est l'instrument du capital, capital dont l'objectif numéro un est de comprimer les salaires pour augmenter ses profits. Or, pour les citoyens, c'est par les conflits et l'établissement d'un rapport de force que les acquis sociaux peuvent être obtenus, ce qui réduit automatiquement les bénéfices de la caste. Interviewé par la revue Ballast en décembre 2022, Paul Rocher expliquait que depuis la crise du capitalisme dans les années 70, autour du choc pétrolier, de la fin de la convertibilité en or du dollar, du développement de la financiarisation, Paul Rocher expliquait, je cite, « La classe dominante, alors, ne supporte plus de partager une partie grandissante de la richesse créée et passe à l'offensive. » C'est le début de la période néolibérale qui se caractérise par une redistribution des richesses à l'envers, des pauvres vers les riches. Cette phase du capitalisme est rendue particulièrement instable car elle perd en consentement au sein de la population. Le rôle de la force est alors d'autant plus important. Et, contrairement à d'autres pays de l'Europe occidentale comme l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, un mouvement ouvrier militant subsiste et continue de revendiquer, de faire grève. Si la mémoire militante des 30 dernières années est rythmée par les défaites, il y a néanmoins un succès notable. Les luttes ont empêché la classe dominante d'aller aussi loin qu'elle l'aurait souhaité dans le néolibéralisme. J'interprète la décennie 2010 comme une tentative renforcée de la bourgeoisie de libéraliser la France pour qu'elle se mette au niveau des pays voisins. Mais comme la population s'y oppose, il faut recourir aux armes, d'où une recrudescence des violences policières. On en vient à l'un des objectifs affichés de la police, celui qui est le plus visible pour les citoyens et qui permet tout, assurer l'ordre public, qu'on pourrait traduire par « assurer l'ordre social ». Il ne faut pas que ce qu'on appelle la démocratie, qu'on appelle la République ou l'état de droit, c'est selon, soit menacé. C'est d'ailleurs pour cela que l'appel à l'insurrection est formellement interdit en France, il est même réprimé quand il est vraiment fait en public. Et bien que les effectifs de police n'ont jamais été aussi pléthoriques, énormément de gens se plaignent de l'insécurité, des incivilités, etc. Je vais reprendre ce que disait Paul Rocher lors de l'interview à Ballast. Quand on parle de la police, il faut prendre en considération qu'elle est déjà surdimensionnée. En matière de présence policière, la France contemporaine rivalise sans difficulté avec les régimes autoritaires. Ensuite, on sait que les stratégies policières n'ont pas ou peu d'impact sur la criminalité. La police n'assure pas la sûreté de la population, elle ne le peut pas. Dans ce contexte, la police de proximité est censée être plus proche de la population, mais pourquoi faire ? Mieux connaître les liens, les interconnaissances de l'échelon local et se les approprier à des fins répressives. Les tenants de la police de proximité font le constat que les gens se connaissent, savent des choses, parlent entre eux et sont une ressource importante d'information. Cette connaissance extrêmement fine n'est pas accessible par des moyens techniques, il faut un contact. La police de proximité, qui n'est donc pas au service de la population, vise une meilleure connaissance pour mieux surveiller et réprimer. Ce sont des dérives largement encouragées par la loi sécurité globale de Macron et Darmanin. On a aussi un problème avec l'impunité grandissante pour les actes illégaux de la police. Par exemple, on a la volonté qui est claire d'interdire de filmer les violences policières, la volonté de faire passer une présomption de légitime défense lors d'un tir, ou encore d'anonymiser les policiers lors des procédures. La charte de déontologie de la police rappelle bien dans l'article 1er « La police nationale concourt sur l'ensemble du territoire à la garantie des libertés et à la défense des institutions de la République, au maintien de la paix et de l'ordre public et à la protection des personnes et des biens. » Mais à qui les policiers doivent-ils obéissance ? Il est écrit « Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. » La question du rôle de la police renvoie directement à celle de la société dans laquelle elle s'inscrit. Dans une démocratie comme la nôtre, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit dans l'article 12, je cite, « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. » On l'appelle bien la force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Mais depuis 2014, sous Hollande, donc, l'article R434.2 du Code de la sécurité intérieure nous dit que, et là je cite de nouveau, « La police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre public, la protection des personnes et des biens. » Soudain, les forces de sécurité intérieure armées ne sont plus chargées de garantir les droits fondamentaux, mais de défendre les institutions et les intérêts nationaux. Bien sûr, on fait comme si les intérêts nationaux étaient ceux de la population dans son ensemble, c'est-à-dire l'intérêt général, mais on voit de plus en plus clairement que les intérêts défendus par nos dirigeants n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Sinon, pourquoi des sanctions contre la Russie qui ont saboté nos approvisionnements en énergie, par exemple ? Pourquoi Nord Stream a-t-il sauté sans que personne ne trouve rien à redire ? Pourquoi toutes ces injections expérimentales imposées à la population achetées à prix d'or ? Pourquoi la régression des retraites ? Pourquoi la privatisation des autoroutes ? On pourrait continuer la liste longtemps. tout ça pourrait encore aller s'il y avait un contrôle démocratique sur les institutions centrales et s'il y avait une réelle séparation des pouvoirs, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans une démocratie totalement défaillante qui ne correspond pas à la définition de l'état de droit, notamment en raison de l'absence d'indépendance de la justice. Même l'armée est mise à contribution puisque selon l'article L1111.1, la stratégie de sécurité nationale a pour objectif d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et aussi de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. Tout ça veut dire que l'armée doit intervenir si les institutions se sentent menacées, a priori. Qu'en est-il du droit de résistance à l'oppression? Comment les populations peuvent-elles s'organiser pour construire de nouvelles institutions plus démocratiques si on leur envoie la police, la gendarmerie, voire l'armée au premier rassemblement contestant la légitimité des institutions actuelles captives d'une caste bourgeoise et de détenteurs de capital? Mystère, il va falloir trouver une voie au milieu de ces contraintes. Comme l'a écrit l'auteur Emmanuel Brunet-Baumer en 2018 dans un article publié par Les Échos, la force légale est donc désormais un outil subordonné aux intérêts des institutions républicaines et non pas de la société civile que celles-ci sont censées servir. Nous pourrions aussi souligner l'absence d'une référence aux droits fondamentaux dans ces deux articles. Ils ne sont après tout qu'à la base de toutes nos lois, pourquoi s'y attarder? On les remplace subtilement par cette dangereuse notion qu'est la protection de la population. Et alors, il y a une question sous-jacente, de quelles institutions s'agit-il finalement? Qui a la main sur les forces armées civiles et militaires? Le président et le gouvernement, certes, mais en tout cas pas le Parlement qui n'a plus voix au chapitre dès qu'une situation d'urgence est proclamée. Le dernier point, quid de la violence légitime? Ça pose deux questions, tout ça, celle de la violence légitime donnée aux institutions censées représenter la population et défendre l'intérêt général, et celle des limites de cette violence légitime. D'abord, d'où vient cette expression? En fait, avant la Révolution, comme on l'a vu, c'est le roi seul qui disposait du monopole de la violence, qui l'avait partagé à un moment, même pendant des siècles, avec les seigneurs et la bourgeoisie de province qu'entretenaient ces milices communales. Et avec la Révolution, on a institué une force publique censée garantir les droits de tous. Que dire d'un épisode alors où les policiers traquaient les citoyens dans les rues, exigeant des laissez-passer dont les modalités changeaient en permanence, ne laissant à peu près en paix que ceux qui cédaient à l'injonction des injections expérimentales? Cette violence était-elle légitime? Ce qu'il s'est passé, c'est que la Révolution était celle des intérêts bourgeois. Et lorsqu'ils ont vu que le peuple réclamait une vraie démocratie et pas leur république, eh bien les bourgeois ont eu peur. Maintenant qu'ils avaient la main sur les institutions dites démocratiques et sur la violence d'État, ils pouvaient réprimer dans le sang toute velléité d'insurrection. Politologue François Dieu dans le livre « Violence et pouvoir politique » paru en 1996, l'institutionnalisation du pouvoir politique, que traduit ce concept d'État, s'opère en effet par un mécanisme d'appropriation-légitimation de la contrainte par l'usage de la force physique. Cette violence d'État peut se définir comme une violence politique, monopolisée par une autorité souveraine, légitimée par l'acceptation plus ou moins contrainte de cette monopolisation et canalisée de manière à bénéficier d'une présomption de légalité. La violence d'État est tout d'abord une des formes de la violence politique. Fin de citation. Depuis la Révolution, en effet, les citoyens n'ont jamais pu mettre la main sur ces fameuses institutions. Et quand ils s'en sont rapprochés, même de très loin, je pense par exemple aux révolutions de 1789, 1793. D'ailleurs, je recommande de lire la Constitution du 24 juin 1793, qui commence par « Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. » Le reste de la Constitution est pas mal aussi. On a aussi comme révolutions les plus connues, 1830, 1848, 1870, 1936. Elles ont toutes raté. Pourquoi ? Parce que la répression a été féroce et tout est rentré dans l'ordre très vite. Ce fameux ordre républicain, ordre public, qui ne signifie rien d'autre que le statu quo à l'avantage des mêmes. Pour que tout ce système ne soit pas trop contesté, la population a été conditionnée à penser qu'elle est en démocratie, dans un état de droit, et que ces institutions sont gérées par des représentants du peuple qui travaillent dans l'intérêt général. C'est ce que j'appelle le catéchisme républicain. Sébastien Rocher expliquait dans une interview pour le magazine Sciences Humaines qui a été faite en 2018, que la confiance et la légitimité sont des éléments essentiels au gouvernement d'un pays autrement que par la force et la contrainte. La confiance est liée à la qualité de la relation avec la police qui répond plus ou moins bien, suivant les pays, aux besoins des personnes. Elle se gagne au quotidien. La légitimité est le fait de reconnaître à la police un droit moral à se faire obéir. Elle découle de l'identification de la population avec les gouvernants et du bon fonctionnement des institutions politiques, qui se traduit par le fait d'adhérer aux décisions prises par l'autorité qui commande la police. Bon, on le voit, il y a pas mal de problèmes avec cette police dont la violence serait légitime. Sur cette rupture police-population et sur la question démocratique derrière la répression policière, le politologue Fabien Jobard expliquait lors d'une conférence à l'Université de Louvain il y a 3 ans ceci.
Lorsque vous examinez donc les arguments des Gilets jaunes, vous voyez bien qu'il y a un affrontement entre deux légitimités. Un affrontement fort entre deux légitimités, l'une qui est celle de l'expression par les urnes et l'autre qui est celle de l'expression protestataire. Une expression protestataire qui précisément refuse la démocratie représentative et qui privilégie l'adresse immédiate au titulaire du pouvoir politique, jusque même dans les formes que prennent la manifestation. Les Gilets jaunes ont appris d'un siècle de manifestation, ont appris d'un siècle de pacification de la manifestation et se refuse justement à jouer le jeu de la négociation préalable avec les autorités de police, de la détermination d'un trajet, de la désignation d'organisateurs de la manifestation qui, du fait qu'ils sont organisateurs, s'exposent à des poursuites pénales. Ce sont les seuls dans tout un cas de circonstances. Et donc vous voyez bien ici que Emmanuel Macron, qui par ailleurs fait comme si se présenter à des élections était le simple fruit de la volonté et ne supposait pas une organisation, de l'argent, tout un ensemble de machines électorales, j'emploie le terme qu'on employait il y a déjà un siècle dans la science politique, qui critiquait la démocratie représentative en ce qu'il s'agissait d'une oligarchie de responsables de partis. Bref, les Gilets jaunes précisément remettent en cause ce principe de la désignation du titulaire du pouvoir. Et donc, la question qui se pose cette fois-ci, c'est que faire dans une démocratie avec une partie substantielle de la population qui n'est pas du même parti qu'eux, mais qui remet en cause les principes de la démocratie. Est-ce que, à ce moment-là, la police est légitime à employer la force contre ces manifestants? C'est ça la question que devrait en réalité articuler Emmanuel Macron. Il y a une difficulté à penser effectivement la démocratie représentative par les instruments qu'elle se donne aujourd'hui comme étant l'instrument le mieux à même à contredire l'idée d'une violence excessive, l'idée d'une police qui exerce une force anti-démocratique. Dernier point, très rapide réflexion sur la démocratie, justement. Vous savez que la démocratie aujourd'hui, c'est une notion qui est très remise en question dans la science politique. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron est souvent prompt à évoquer les démocraties illibérales, par exemple, et à se faire le défenseur de la vraie démocratie, de la démocratie contre les démocraties illibérales. Un collègue anglais, Colin Crouch, parle volontiers, pour caractériser nos régimes, Belgique, France, Angleterre, Allemagne, de post-démocratie. C'est-à-dire des démocraties dans lesquelles le choix électoral n'est plus un choix électoral, parce que le régime économique dans lequel nous vivons est un régime dans lequel, en gros, la finance, les marchés financiers, ont pris le pas sur le capital humain et les forces progressives, si bien que même la compétition politique est en réalité une compétition de marionnettes par rapport à ce que peut décider la finance, ce que peuvent décider les marchés financiers. Vous avez une autre interprétation de cette disposition-là, qui sont toutes les interprétations déjà anciennes en Angleterre. Policing the Crisis, c'est un des ouvrages les plus importants sur la police, un ouvrage de Stuart Hall et ses collègues, qui montre comment la police sous Margaret Thatcher devient une police autoritaire au service d'un libéralisme autoritaire. Et nos régimes seraient caractérisés par des démocraties autoritaires, comme des démocraties autoritaires. En France, à la fin des années 70, on a un élève de Pierre Bourdieu, Daniel Gaxi, qui présente un ouvrage qui s'appelle « Le sens caché », C-E-N-S, qui montre que ce sont toujours les mêmes qui ne prennent pas part aux élections, qui ne prennent pas part au jeu électoral. Les gens qui sont dépourvus de capitaux économiques, mais surtout de capital scolaire, je reprends les catégories ici de Bourdieu, et que donc le fonctionnement de nos démocraties nous ramène aux démocraties censitaires.
La police serait-elle finalement un symptôme du capitalisme ? Les démocraties censitaires, c'était ce qu'on a connu au XIXe siècle. En effet, dès 1789, les bourgeois qui avaient pris les institutions ont fait en sorte de restreindre le droit de vote le plus possible et très vite, seuls ceux qui payaient des impôts ont pu voter. Les conflits tout au long du XIXe siècle ont beaucoup porté sur l'abaissement et l'augmentation successive du seuil d'imposition nécessaire pour voter. Et le suffrage censitaire, donc, n'empêchait pas du tout qu'on parlât de démocratie à l'époque. Bref, la violence légitime, dont les ministres de l'Intérieur et syndicats de police nous rebattent les oreilles depuis des lustres, n'est qu'un concept philosophique inventé au début du XXe siècle par Max Weber, philosophe et sociologue avant l'heure, qui constatait que c'est l'État qui, dans nos sociétés, détient le monopole de la violence légitime. Et pour lui, l'État est, je cite, « un rapport de domination de l'homme sur l'homme, fondé sur le moyen de la violence légitime ». Ce n'est pas un terme légal, il n'est pas dans la Constitution ni dans le Code de la sécurité intérieure. Le pilier de tout ce système capitaliste, celui sans lequel il s'écroule, ce sont les forces de l'ordre, dont beaucoup pensent sincèrement travailler pour le bien commun, et c'est souvent le cas, heureusement, mais l'institution policière est conçue pour défendre le système, ce système dont nous voyons qu'il consiste à exploiter tout ce qui peut l'être au profit de quelques-uns. Quand nous reprendrons les choses en main, il faudra revoir le fonctionnement de la police de fond en comble et veiller à un réel contrôle démocratique sur ses actions et son fonctionnement.